بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, le samedi, le 8 du mois de Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cours hebdomadaire dans lequel nous lisons ensemble le livre de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, l'actuel mufti d'Arabie Saoudite, le grand savant salafi très connu, Hafidhahullah, qui est intitulé « Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat ». Et comme son nom l'indique, le livre est réservé par l'auteur à des règles de jurisprudence qui concernent la femme croyante. Et ça concerne aussi les hommes dans le sens où la plupart des hommes ont des sœurs, des mères, des tantes, et quand ils se marient, des épouses. Et le mari est censé aider son épouse à comprendre ces questions qui sont importantes pour elle, pour la validité de ses adorations, notamment celles qui concernent la purification et aussi la tenue vestimentaire correcte, et de connaître les erreurs que peuvent faire certaines sœurs dans leur tenue vestimentaire afin d'aider son épouse, d'aider sa sœur, d'aider sa mère à être dans la conformité à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons parlé dans notre dernier cours, nous avons parlé des métrorragies et des trois cas dans lesquels peut se trouver la femme quand elle a des pertes et des saignements qui ne sont pas démenstrués, comme nous avons vu, ou bien c'est une femme qui a une Ada, qui a, avant l'arrivée de ses saignements, elle avait un cycle régulier. Dans ce cas-là, elle va se tenir tout simplement à son cycle. Un cycle régulier, c'est-à-dire qu'elle a ses menstrues pendant un certain nombre de jours, à chaque fois à la même période, chaque mois à la même période, au début du mois, au milieu, ou à la fin du mois. Donc, elle va se considérer en état d'impureté pendant la même période, et en dehors de cette période, elle fait son lavage rituel et elle fait toutes ses adorations. Ça, c'est le premier cas. La femme ayant un cycle régulier, ce qu'on appelle « mu'tada ». La deuxième, qu'on appelle « al-mumayyiza ». Donc, si on suppose qu'elle n'a pas de cycle régulier, dans ce cas-là, on regarde, est-ce que c'est une femme qui arrive à faire la différence, la distinction entre les deux natures de sang, le sang des menstrues et celui des métrorragies. Si c'est le cas, alors elle va suivre cette distinction. Et quand elle voit que c'est le sang qui a les caractéristiques du sang des menstrues, elle se considère comme indisposée. Et après, quand c'est le sang des métrorragies, elle fait son lavage rituel et elle fait ses adorations. Le troisième cas, c'est la femme n'ayant ni cycle régulier, ni la capacité de faire la distinction entre les deux sangs. Car des fois, il peut ne pas y avoir une grande différence chez certaines femmes. Et la femme, dans ce cas-là, elle n'arrive pas à faire la distinction. Alors, à ce moment-là, elle va se tenir à l'habitude des femmes de sa famille, par exemple sa mère. Elle regarde le cycle de sa mère, combien il dure, ou là le cycle de ses sœurs, et ainsi de suite. Les femmes de sa famille de préférence, sinon ça peut aller même jusqu'à la femme, les femmes de son pays. Ou là l'habitude des femmes d'une manière générale qui est entre 6 et 7 jours. Tout ça est valable. Taïb. Ensuite, dans le point suivant, je pense que c'est là où on s'est arrêté parce que marque-page que j'ai, c'est ici. Ma yelzamu al-mustahadatu. Ma yelzamu al-mustahadatu. Ma yelzamu al-mustahadatu. Afwan. Ma yelzamu al-mustahadata fi hal al-hukm bi taharatiha. Donc là, après avoir su yani, quelles sont les femmes qui sont dans l'istihada, alors, qu'est-ce qui incombe à la femme durant cette période de métrorragie quand elle a ses saignements qui ne sont pas un sang de monstru? Qu'est-ce qui incombe à la femme? Il a cité deux points. Le premier, il a dit « يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. » Premièrement, il faut qu'elle se lave à la période, à la fin de sa période de menstru, selon ce qui a été cité précédemment. Est-ce qu'elle avait un cycle régulier, la distinction ou l'habitude des femmes. Donc, après la fin de ce cycle de menstru, selon les trois cas, elle va se laver, le lavage rituel, le ghusl. Et pour le ghusl de l'haïd, elle doit défaire ses nattes. Si elle a des nattes, elle doit les défaire. Et non pas pour le lavage de l'janaba. Suite à l'intimité, il n'y a pas besoin de défaire les nattes, si jamais elle a des nattes. Taïb. Et le ghusl a été décrit par Cheikh Hafidhahullah précédemment également. Donc elle revient à la description de le ghusl. Le deuxième point qui lui incombe de faire, c'est de laver ses parties intimes. C'est de laver قال تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة. Donc elle doit laver ses parties intimes afin de retirer le liquide sortant pour chaque salat, pour l'accomplissement de chaque salat. Avant de faire la salat, elle doit laver ses parties intimes afin de retirer tout le sang, tout ce qu'elle puisse avoir. Et ensuite, j'ai l'impression comme si on l'a déjà lu, Hada, lakin, khair, inshallah, le rappel est bénéfique si jamais on l'a déjà lu. Ensuite, elle va utiliser du coton qu'elle va placer au niveau de sa partie intime, afin d'empêcher la sortie du sang. Et par la suite, elle doit placer quelque chose par-dessus qui empêchera, qui va maintenir ce coton en place et qui empêchera en plus la sortie du liquide. Donc une protection supplémentaire. Comme j'ai cité tout à l'heure, ou peut-être dans une fois précédente, tout ça, ça peut être remplacé par les protections qui sont vendues et disponibles pour les femmes. Car le but de ces techniques, c'est d'empêcher que le sang n'aille sur le corps ou le vêtement ou l'endroit dans lequel elle fait sa salat. Car la propreté et la pureté est demandée à ces trois niveaux. Les vêtements, le corps et l'endroit dans lequel nous accomplissons l'adoration. Et après avoir fait ça, elle fait ses ablutions. Elle fait ses ablutions après l'entrée de l'heure de la salat. Par exemple, quand c'est dhuhr, elle attend l'adhan et ensuite, elle va faire ses étapes. Laver ses parties intimes, retirer tout sang et puis utiliser un coton et une protection afin d'empêcher toute sortie de sang. Et par la suite, elle fait ses ablutions et elle fait la salat durant tout ce temps. C'est-à-dire le temps de dhuhr. Si elle a fait les ablutions pour salat dhuhr, elle va continuer à faire toutes les adorations qui nécessitent la pureté avec les mêmes ablutions, indépendamment de ce qui est sorti d'elle. C'est-à-dire elle fait dhuhr, elle fait les salawat nafila de dhuhr, elle lit le Coran, dans le cas où on dit qu'elle peut lire le Coran, donc elle peut faire toutes les adorations qui nécessitent la purification, qui nécessitent les ablutions. Comme le Nabi Aïssalam a dit à la femme qui avait des métroragies, il lui a dit Tada'u salata ayyama aqra'iha. La femme s'abstient d'accomplir la salat durant les jours de ses métroragies. Tada'u salata ayyama aqra'iha. Elle s'abstient de faire la salat durant la période de ses menstrues. Ensuite, à la fin de cette période, selon les trois cas que nous avons vus, elle va faire le lavage rituel. Et ensuite, elle fait sa salat. Et elle fait les ablutions pour chaque salat. C'est comme ça que le Nabi Sallam a dit dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Dawud, ou At-Tirmidhi ou Ibn Majah. Et Nabi Sallam a dit également dans un autre hadith, il a dit à une autre femme qui avait des métroragies, An'atu lakil kursuf. Il lui a dit, je te conseille d'utiliser du coton. Fa'innahu yudhibu d-dam. Fa'innahu yudhibu d-dam. Car il empêche la sortie de sang. قالت هو اكثر من ذلك. Et cette sahabia, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé d'utiliser le coton car ça permet d'empêcher la sortie du sang, elle lui a dit le sang sort d'une manière abondante au messager d'Allah. Et c'est pas suffisant. Il lui a dit alors Fatalajami, yani utilise yani du coton pour couvrir toute la partie intime. Qalat huwa akthar min dhalik. Qalat même ça c'est pas suffisant au messager d'Allah. Yani ça démontre qu'elle avait des saignements très abondants. Ensuite Nabi sallam lui a dit fattakhidhi thawba. Alors à ce moment-là, utilise une serviette plus grande qui permet vraiment de boucher et d'empêcher la sortie du sang. Et le kursuf, c'est le coton. Et Cheikh a dit, c'est possible d'utiliser les couches et les protections médicales qui existent à notre époque. Ensuite, il va passer au troisième point. Donc, on a parlé des menstrues. On a parlé des métroragies, il reste le troisième et dernier sang, qui est le sang des lochis. Le sang des lochis. Est-ce que vous savez si on a déjà lu, là mes doutes augmentent qu'on a déjà lu ce passage. Si quelqu'un peut écrire sur le chat, est-ce qu'on a déjà lu Aïwa, nous étions arrivés à la fin des règles des logis. Oui, c'est ce que je pense. Barakallahu fikoum. Jazakallahu khair. Taïb. Donc on va faire un rappel également bref concernant les logis. Donc, ce sont des logis, c'est un sang qui coule de l'utérus pendant et après l'accouchement. Pendant et après l'accouchement. Et en réalité, c'est quoi ce sang? Ce sang, c'est le sang qui reste dans l'utérus de la femme au moment de la grossesse. Il sort suite à l'accouchement. C'est pour ça qu'il peut sortir pendant, il peut sortir après, et il peut sortir même un peu avant, comme nous avons vu. 2 jours ou 3 jours avant, à condition qu'il soit accompagné de contraction, at-talq. Même 2 jours ou 3 jours avant l'accouchement, ça sera considéré comme un sang des logis. Et nous avons vu que si jamais la femme fait une fausse couche, on regarde la durée de la grossesse. Et que avant 81 jours, ça ne sera pas considéré comme un sang des logis. Il faut minimum que la grossesse dure 81 jours. Car le fœtus ne commence à se former dans le ventre de sa mère qu'à partir de ce nombre de jours, 80 jours. Donc c'est 81 jours. Et en général, il commence à se former au bout de 3 mois, 90 jours. Donc s'il sort, si elle fait une fausse couche, après une période égale ou supérieure à 81 jours, et que, alors ce sang-là sera considéré comme un sang des logis. Sinon, c'est des pertes auxquelles elle se lave, et puis elle fait ses adorations, car ce ne sont pas des sangs, ce n'est pas un sang des logis. Taïb. Nous avons vu également la durée maximale du sang des logis, et que la plupart des savants disent c'est 40 jours. La plupart des savants disent que c'est 40 jours. Et les logis n'ont pas de durée minimale. C'est-à-dire la femme, elle peut perdre du sang pendant une heure et ça s'arrête, et elle devient pure. Les règles concernant, et je pense que c'est là où on s'était arrêté. Non, les règles des logis, c'est ça. C'est ce que je vais commencer maintenant. Ahkam al-nifasi ka ahkam al-haydi fi ma yali. Donc, les logis ont le même jugement que le sang des menstrues dans ce qui va suivre, dans les points que Cheikh Hafidhallah a mentionné ici. Le premier point. Yahrumu wat'un nufasa'i kama yahrumu wat'ul ha'id wa yubahu l'istimta'u alladhi duna al-wat'i. Donc le premier point, il est interdit d'avoir des relations intimes avec la femme ayant des logis. De la même manière qu'il est interdit d'avoir des relations intimes, et on parle des relations intimes avec pénétration, comme il est interdit de les avoir avec la femme ayant des menstrues. Car les deux sont indisposés et il est haram d'avoir des relations avec elle. Par contre, il a dit وَيُبَاحُ لِسِّمْتَاعُ الَّذِي ذُونَ الْوَطْ. Par contre, il est autorisé que le mari jouisse de son épouse sans pénétration. Et quand est-ce que ça devient autorisé d'avoir des relations intimes avec la femme? Est-ce que c'est seulement avec la fin des menstrues ou l'arrêt des loshis, ou il faut qu'elle se lave tout d'abord? Chez le Malikiya, et Shafi'iya, et le Hanabila, et même quelques savants parmi le Hanafiya, tous ils disent que c'est strictement interdit jusqu'à ce qu'elle se lave, et pas avant. Donc la fin des menstrues n'autorise pas l'intimité, jusqu'à ce que la femme se lave. Le deuxième point, يحرم على النفساء أن تصلي أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائط. De la même manière que la femme ayant des menstrues, la femme ayant des loshis, il lui est interdit de jeûner ou de faire la salate ou de faire le tawaf autour de la Kaaba. De faire le tawaf autour de la Kaaba. Car ces trois nécessitent d'être en état de pureté. La salat, le jeûne et le tawaf également. Si elle fait l'umra, ou elle fait le hajj, ou elle fait un tawaf. Le troisième point qu'il a cité, « يَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مَا لَمْ تَخْشَ نِسْيَانَهُ. » Donc, il est interdit pour la femme ayant des loshis, comme la femme en menstruation, il est interdit de toucher al-mushaf, de toucher le Coran. Il est interdit également de lire le Coran, sauf dans le cas où elle craint de l'oublier si jamais elle ne le lit pas. Si elle craint de l'oublier si jamais elle ne le lit pas, alors à ce moment-là, même indisposé, elle peut lire le Coran, mais pas toucher le mushaf, selon l'avis de Cheikh. Elle peut lire le Coran, mais pas toucher le mushaf. Elle lit à partir d'un téléphone, ou là, elle met une couverture pour le mushaf. Lakin, elle ne le touche pas directement. Ça, c'est l'avis que Cheikh a cité. Donc, par rapport à toucher le mushaf, qu'il est interdit de toucher le mushaf pour la femme indisposée, comme pour l'homme ayant le janaba, ça c'est l'avis des quatre écoles. Et l'imam Ibn Taymiyyah a rapporté ça de la plupart des savants. C'est l'avis de la plupart des savants. Que la femme ne touche pas le mushaf quand elle est indisposée, et l'homme également quand il a le janaba. D'accord, ça c'est par rapport à le toucher. Par contre, par rapport au lit à la lecture du Coran et la récitation du Coran, ce qui est juste, wallahu a'lam, c'est que la femme peut lire le Coran, même si elle ne craint pas de l'oublier. Il y en a la femme, si elle passe 7 jours, la 8 jours, ou la 10 jours dans certains cas, sans lire le Coran, elle s'éloigne ainsi du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça, ce n'est pas de dalil. Le dalil, pour dire que c'est autorisé, c'est justement qu'il n'y a pas de dalil qui interdit, qui est authentique et explicite. Et c'est pour ça que l'école malikite et Zahiriya également, et c'est aussi l'avis de l'imam Shafi'i, et ça a été rapporté même de l'imam Ahmad, et ça a été choisi comme l'avis le plus juste, l'avis prépondérant par l'imam Tabari, Sheikh al-Mufassirin, et c'est l'avis de Sheikh l'Islam Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim et d'Ibn Uthaymin et l'Albani et le comité permanent des grands savants, tous ont dit qu'il est autorisé pour la femme de lire le Coran, même en étant indisposée, sans condition de craindre l'oubli du Coran. Donc, dans tous les cas. Wallahu a'lam, ça, c'est la vie juste. C'est la vie juste. Il y en a un musulman qui s'éloigne du livre d'Allah pendant une semaine ou 10 jours, et ça, c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver. Le musulman doit toujours lire le Coran quotidiennement, ne serait-ce qu'un hizb ou un juz. Et celui qui ne peut pas un hizb, il lit la moitié d'un hizb. Lakin, il faut que tous qu'on ait un lien et un contact quotidien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'idéal est de lire ce que tu dois lire de le Coran directement après avoir fait Salat al-Fajr et après avoir fait les invocations du matin. Tu lis, après Salat al-Fajr et les invocations de la Salat et les invocations du matin, tu lis cette partie de le Coran que tu lis habituellement. Ça, c'est l'idéal. Car si tu le fais très tôt, en début de journée, déjà tu vas bénéficier de le baraka de la lecture de le Coran durant toute ta journée. Et ça va être facile pour toi de lire par la suite encore et encore. Et aussi parmi les moments où c'est très bon de lire le Coran, quand tu viens prendre ton lit, tu prends ton lit pour dormir, de lire un hizb par exemple. C'est profitable et ça aide la personne, ils disent que même ça aide la personne à rentrer dans le sommeil profond très rapidement. Tu lis un hizb avant de dormir. Et un hizb, ou là un juz le matin. Comme ça, tu auras lu 3 hizb, facilement. Et rien n'est facile que ce que Allah facilite. طيب. Le quatrième point, يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحيض. Donc également, ça c'est une règle commune. Envoyez-moi le détail écrit ici. Lakin, ce que j'ai lu, Cheikh Ibn Uthaymin, il a un avis dans lequel il autorise clairement que la femme lise le Coran, même indisposée. Peut-être dans d'autres endroits, il a eu d'autres avis ou là. Lakin, envoyez-moi, c'est toujours profitable. Barakallahu fikum. Taïb. Le quatrième point, on a dit, qui est également une règle commune entre les menstrues et les logis, c'est le devoir de rattraper le jeûne obligatoire. Si par exemple elle était indisposée pendant le mois de Ramadan, elle n'a pas jeûné un certain nombre de jours, elle doit les rattraper, car la femme rattrape le jeûne et ne rattrape pas la salat. Cinquième point, يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك. Il est également obligatoire pour la femme, à la fin de ses logis, de se laver le lavage rituel, comme elle le fait à la fin de ses menstruations. Et les arguments sur cet avis, sur ces avis, il a dit, عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Donc, il a cité les arguments parmi les arguments, hadith Umm Salama, sur lequel se basent la plupart des savants pour dire que la durée maximale des menstrues, des lochis, est de 40 jours. Elle est de 40 jours. Et ça, nous l'avons, je pense, je l'ai déjà mentionné. Ça, c'est l'avis de l'Hanafiya, de l'Hanabila. Et même certains ont rapporté le consensus sur cet avis. il a rapporté l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Abd al-Barr. Et je vous ai dit, Anna, en réalité, il n'y a pas de consensus. Et même Cheikh Ibn Uthaymin, il a choisi la vie de 60 jours qui est rapportée de l'imam Ahmed. Et que la vie des 60 jours, il est rapporté de certains savants également. Et d'autres ont dit, il n'y a pas de durée maximale. Les Elochis, les Elochis peuvent durer même plus de 60 jours. Si ça continue, ça peut durer même plus de 60 jours. طيب. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Umm Salama radiallahu anha que les femmes s'abstenaient de faire la salat après leur accouchement jusqu'à 40 jours. Jusqu'à 40 jours. Donc ça indique bien que c'était la durée maximale pendant laquelle la femme s'abstenait après leur accouchement. Lakin, ceux qui disent ça peut être supérieur, ils disent ça c'est l'habitude de la plupart des femmes. Lakin, Umm Salama radiallahu anha, elle décrit la situation de la majorité des femmes à l'époque du prophète alayhi sallam, et ça ne veut pas dire que toutes les femmes étaient ainsi, forcément. Et même ça, ça peut changer. Selon l'époque, selon l'alimentation, selon la nature de l'environnement, selon plusieurs critères. Pour ça, Allah a'lam, le fait que ça peut durer plus longtemps, ça semble être plus juste. Wallahu a'lam. طيب. Ensuite, il a rapporté la parole de Al-Majd ibn Taymiyyah. قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. المجد ابن تيمية c'est le grand-père de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qui a un livre qui s'appelle Al-Muntaqa. Al-Muntaqa. Donc المجد ابن تيمية dit: قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لألا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة النساء عصر في نفاس أو حيض انتهى. Donc, le Majd ibn Taymiyyah, il dit une faïda très importante. Il dit là, ce que Umm Salama, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, Umm Salama, ce qu'elle veut dire par que les femmes restaient jusqu'à 40 jours, en j'ai traduit le sens. Lakin en arabe, on peut comprendre qu'elle s'abstenait pendant 4 jours, 40 jours, pour toutes les femmes. Et ça, ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Car si on dit, si on accepte que la durée maximale des lochis était de 40 jours, on ne peut pas dire que toutes les femmes avaient des lochis pendant 40 jours. Car il y a des femmes qui pouvaient devenir pures bien avant. Et donc il a fait ce rappel sur ce point. Donc elle s'abstenait jusqu'à 40 jours. La Kinyona qui s'abstenait pendant une durée inférieure, car le sang s'arrête bien avant. An Umm Salamah radiyallahu anha qalat kanat al-mar'ah min nisa' an-nabi sallallahu alayhi wasallam taq'udu fi an-nifas 40 laylatan la ya'muruha an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi qada'i salati an-nifas. Donc Umm Salamah elle dit que les femmes, yani les épouses du prophète alayhi sallam, les épouses du prophète alayhi sallam, elles s'abstenaient après, yani quand elles avaient des lochis, elles s'abstenaient jusqu'à 40 jours. Et le Nabi alayhi sallam ne leur disait pas de rattraper la salat, lakin de rattraper seulement le jeûne. Faïda. Idan qata'a ad-damu 'an an-nisa'i qabla al-40. واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين، فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه. دونك اون فائدة، سي لو سون ديروشي سارت افون le terme des 40 jours, et que la femme, suite à cela, elle a fait le nécessaire, c'est-à-dire elle s'est lavée, le lavage rituel, et elle a fait la salat, et elle a jeûné. Si, après cela, le sang, elle a eu un retour de couche, après cela. On va prendre un exemple concret. Une femme, après son accouchement, elle a eu du sang d'Elochi pendant 20 jours. Suite à cela, ce sang s'est arrêté. Et elle a eu les signes de la fin du sang. Donc elle s'est lavée, et elle a fait ses adorations, et elle a jeûné, si c'était pendant Ramadan, elle a jeûné. Mais au bout de 10 jours, remarquez, on est toujours dans les 40 jours. 20 plus 10, ça fait 40. Car le jugement, il va changer si jamais ça arrive après les 40 jours, selon cet avis que Cheikh y prend. Donc si ça arrive pendant les 40 jours, donc elle a eu un retour de couche pendant les 40 jours. Alors, à ce moment-là, elle va le considérer comme un sang d'Elochi qui est revenu. Et elle s'abstient de faire la salat et de jeûner. Par contre, la salat qu'elle a fait durant la période intermédiaire durant laquelle elle a été pure, la salat et le jeûne qu'elle a jeûné sont valides et elle ne doit pas les rattraper. D'accord ? Elle ne doit pas les rattraper, ils sont valides. Par contre, étant donné que le retour de couche a eu lieu avant le terme des 40 jours, c'est quand même considéré comme un sang d'Elochi. Lakin, ce qu'elle a fait comme adoration pendant la période de l'arrêt, ce sont des adorations valides et elle ne doit pas les rattraper. Deuxième faïda. Qala al-Sheikhu عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة سببه دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. Donc, Cheikh Abdurrahman Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit فَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمْ. Il résulte de ce qui a précédé que le sang d'Elochi, sa cause, c'est l'accouchement. Et le sang des métrorragies est un sang. Le sang des métrorragies est un sang qui est dû à une maladie et ce qui est semblable à la maladie, ou une chose pareille à la maladie. Et que le sang des menstruations, d'Amul Haïd, est le sang originel. Et Allah est plus savant. Donc le sang d'Elochi, c'est quoi la cause du sang d'Elochi? C'est l'accouchement. Le sang des métrorragies, c'est un sang qui est lié à une maladie. Par exemple, Shaitan qui vient frapper au niveau de la veine pour faire sortir le sang, et pour saigner, provoquer ce saignement. Donc c'est une maladie ou quelque chose qui est semblable. Et le troisième sang, le sang des menstruations, c'est celui-là le son originel. C'est celui-là le son originel. Yani comme Faïda que je vous cite, que Cheikh n'a pas cité ici, il y a des savants qui s'appuient sur ce point que Cheikh Saadi Rahimullah a cité, que le son originel, c'est le son des menstrues. Ils disent donc la règle de base, dans tout son qui sort, qui coule de la femme, et qu'il est un son de menstruation jusqu'à preuve du contraire. طيب. Ensuite, il a parlé de tanaoul al-huboub, prendre des comprimés, prendre la pilule. Prendre la pilule. Il a dit la ba'sa an tatanawal al-mar'atu ma yamna'u 'anha nuzul al-hayd idha kana dhalika la yadurru bi sihhatiha. Donc il n'y a pas de mal à ce que la femme prenne la pilule à condition que ceci ne nuit pas à sa santé, ne détériore pas sa santé. فَإِذَا تَنَاوَلَتْهُ وَامْتَنَعَ الْحَيْضُ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَطُوفُ وَيَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ. Donc si une femme prend la pilule et que le son des menstruations s'arrête, alors elle sera considérée comme une femme pure qui doit jeûner et faire la salat et elle peut faire tawaf. Tout ça est valide, comme les autres femmes pures. Comme les autres femmes pures. Là, qu'il notait bien qu'il a cher à mentionner la condition pour que la prise de pilule soit autorisée, c'est qu'elle ne nuise pas à la santé de la femme. Et aussi, elle ne la prend pas avec l'intention de ne pas tomber enceinte. Sauf s'il y a des raisons qui le légitiment. Par exemple, elle a des problèmes de santé, des soucis de santé. Elle souhaite attendre une année avant de tomber enceinte afin de s'occuper de son bébé. Yani, des causes légitimes. Et en plus de cela, il faut s'assurer que cette pilule ou là, cet outil de... ce moyen de contraception, il faut s'assurer que ce moyen de contraception, pour être encore plus général, n'est pas mauvais pour la santé de la femme. La femme peut avoir recours à une organisation, ce qu'on appelle tandim al-nasl. Ce qui est strictement haram en islam, c'est ce qu'on appelle tahdid al-nasl. Tahdid al-nasl, c'est limiter la descendance et de l'arrêter définitivement. Ça, c'est interdit, sauf dans des cas maladifs. Yani des cas de maladie grave où la grossesse peut être la cause de la mort de la femme suite à l'avis de deux médecins de confiance. Sinon, la femme, elle peut avoir recours à une organisation de l'haml. Le point suivant concerne peut-être le dernier point qu'on va prendre aujourd'hui, inshallah ta'ala, concerne l'avortement. حكم الإجهاض, le jugement de l'avortement. Cheikh a dit, أيتها المسلمة, إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل. Donc Cheikh s'adresse à la femme muslima, il lui dit, t'es responsable, religieusement parlant, de ce que Allah a créé dans ton utérus. Yani de ta grossesse. فَلَا تَكْتُمِيهِ. Alors, ne le cache pas. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc, comme dans ce verset, dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des femmes, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Il n'est nullement licite pour elles de taire ce que Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Il n'est pas permis à la femme de dissimuler ce que Allah a créé dans sa matrice, si elle croit réellement en Allah et au jour dernier. Et ça, c'est la règle de base. وَلَا تَحْتَالِ عَلَى إِسْقَاطِهِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْهُ بِأَيِّ وَسِيلَةِ. Et ne cherche pas à, quel que soit le moyen, il dit, ne cherche pas, quel que soit le moyen, à provoquer l'avortement et à se débarrasser de cette grossesse. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَخَّصَ لَكِ بِالْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانِ. Yani pourquoi la femme cherchera à mettre fin à sa grossesse s'il n'y a pas des raisons de maladie? Pourquoi elle cherche alors à arrêter cette grossesse alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan si le jeûne est difficile pour elle quand elle est enceinte et si ça porte préjudice à sa grossesse? Yani, ça peut représenter un danger pour sa grossesse. Alors à ce moment-là, il lui est autorisé de ne pas jeûner, que ce soit parce qu'elle craint pour sa propre personne ou elle craint pour sa grossesse. Dans les deux cas, elle peut ne pas jeûner, c'est autorisé pour elle. C'est autorisé, mais ça peut devenir obligatoire. Comme pour tout malade, si jamais en jeûnant, il met sa vie en danger, c'est haram de jeûner. La même chose pour la femme. Lakin, si elle arrive à jeûner, et ça en général, c'est quand c'est en début de grossesse, en général, la femme arrive à jeûner. Et le jeûne, comme vous savez, c'est très très bénéfique pour la santé. C'est la chose au sujet de laquelle il n'y a pas de doute aujourd'hui. Ni chez les kuffars, ni chez les muslimines, que c'est le meilleur moyen pour guérir de la plupart des maladies, de jeûner. Et surtout quand c'est le jeûne légiféré, le jeûne religieux, comme Allah l'a décrit, comme Allah l'a prescrit, qui permet à la personne de ne pas manger pendant une longue période. Ça peut arriver à 16 heures, à 15 heures, sans rien manger. À condition que quand il rompt son jeûne, il prend, yani des choses, il mange très peu. Il attend une heure ou la deux pour prendre un repas. Et ce repas aussi, il faut que ce soit quelque chose de correct et ne pas yani se remplir le ventre. Car dans ce cas-là, le jeûne yani, n'aura pas ses bénéfices et ses vertus pour la santé. Il aura certainement la récompense du jeûne. Mais on parle de ses vertus pour la santé. وَإِنَّمَا شَاعَ فِي هَذَا الْعَصْرِ مِنْ عَمَلِيَّاتِ الْإِجْهَادِ عَمَلٌ مُحَرَّمٌ. Il dit, est-ce qui est devenu répandu à cette époque, les avortements qui sont devenus répandus à cette époque, ce sont ils sont interdits. Ils sont interdits. وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ Et après, il va rentrer dans les détails, selon les cas. وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ قَدْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحِ وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ قَدْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحِ Donc, si la femme, elle fait un avortement, une fois que l'âme est insufflée dans son fœtus, c'est-à-dire après 4 mois de grossesse, après 4 mois complets de grossesse, l'âme est insufflée en le fœtus et ça devient un être humain. Et si jamais elle fait un avortement qui provoque la mort de ce fœtus, alors c'est comme si elle a tué un être humain. Il n'y a aucune différence entre elle et celui qui a tué un homme devant lui. Ça, c'est au bout de 4 mois de grossesse. Dans ce cas-là, elle doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et le repentir n'est pas suffisant. Elle doit sortir 10 5 chameaux. 10 d'un fœtus, elle est de 5 chameaux. Ou bien, elle affranchit un esclave, homme ou femme. Lakin, ça n'existe plus à notre époque, alhamdulillah, grâce à la législation d'Allah qui a éliminé l'esclavage avant qu'il ne soit remis sur table par les Occidentaux vers le 18e siècle et après. Donc, elle doit s'acquitter d'une dia de 5 chameaux qu'elle doit donner aux héritiers de ce fœtus. Et elle, bien évidemment, elle ne rentre pas dans l'héritage. Elle n'hérite pas de ce fœtus. Car celui qui tue quelqu'un n'hérite pas de lui. C'est parmi les choses qui empêchent l'héritage. Mawani' al-irth. Minha al-qatl. Celui qui tue. Par contre, si les héritiers cèdent leurs droits dans cette dia, alors à ce moment-là, yani, ça sera pardonné. Ça sera pardonné, car c'est leur droit. Mais dans tous les cas, il faut qu'elle fasse un repentir sincère, pour qu'elle regrette et qu'elle ait la ferme intention de ne plus jamais commettre ce crime, et qu'elle le fasse sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier cas, où elle fait un avortement avant les 4 mois, ce qui lui incombe, c'est le repentir seulement. Mais à partir de 4 mois, c'est-à-dire une fois que l'âme est insufflée dans le fœtus, en plus du repentir sincère, elle doit sortir la dia. Car elle aura tué une âme sans aucun droit. Elle aura tué une âme sans aucun droit. Et chez certains savants, elle doit s'acquitter également d'une expiation, qui est d'affranchir un esclave. En plus de la dîya qu'elle doit donner pour les héritiers de ce fœtus, elle doit s'acquitter d'une expiation, qui est d'affranchir un esclave. Et si elle ne trouve pas, elle doit jeûner 2 mois consécutifs. Et certains savants ont appelé ce crime, l'ont appelé al-maw'udatu sughra, l'ont appelé al-maw'udatu sughra, le petit enterrement, yani qui fait allusion à l'wad qui était pratiqué durant la période anti-islamique. Avant l'islam, certains enterraient leurs enfants en particulier leurs filles, vivantes, jusqu'à ce que l'islam l'interdise. Et donc, la femme qui avorte et qui provoque la mort de son fœtus après 4 mois, c'est comme yani celui qui a tué un être humain devant lui. Il n'y a pas de différence entre le fait qu'il soit dans le ventre ou là, à l'extérieur. C'est les mêmes règles. D'où la gravité. C'est pour ça, yani en résumé de ce que Cheikh a dit, la femme ne doit jamais avoir recours à l'avortement. Là, si jamais il y a des raisons valables, elle peut le faire avant les 4 mois. Mais après les 4 mois, elle ne peut le faire que dans le cas où il lui est autorisé de tuer quelqu'un. Mais c'est jamais autorisé en islam pour quelqu'un de tuer une personne afin de sauver sa vie. Ce n'est jamais autorisé de tuer une autre personne afin de sauver sa propre vie. Et en dernier, il a cité la parole de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans laquelle il a dit « Amma sa'yu l'isqat al-hamli, fala yajouzu dhalik » Donc il a dit, le fait de chercher, le fait de chercher à faire l'avortement afin d'arrêter la grossesse, ceci n'est pas autorisé. Ma lam yatahaqqaq mawtuhu, fa in tahaqqaqa dhalika jaza. Donc il n'est pas autorisé d'avoir recours à l'avortement que dans le cas où la mort du fœtus est avérée. Yani est avérée et il n'y a pas de doute à ce sujet. Dans ce cas-là seulement, il est autorisé pour la femme de faire l'avortement afin de sortir ce fœtus qui est mort dans le ventre. Donc nous allons laisser les avis du comité des grands savants à ce sujet pour notre prochaine rencontre, inshallah ta'ala, avant de passer au 4e chapitre dans lequel il va parler des règles concernant la tenue vestimentaire et le voile de la femme croyante. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.